Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Les bons choix apportent la paix intérieure qui dure dans le temps. Poursuivant son cycle de catéchèse sur le discernement, lors de l'audience générale de mercredi, le pape François a parlé cette fois des signes révélateurs d'un bon choix. Nous y reviendrons juste après les titres. Le Conseil des cardinaux s'est réuni de lundi à mardi à Rome en présence du Saint-Père. La COP27, la phase continentale du synode et la protection des mineurs étaient au centre de la réunion. La capitale ghanéenne Accra abrite jusqu'au 9 décembre la première réunion de l'équipe synodale continentale africaine. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira en Afrique du Sud, au Maroc, en Éthiopie entre autres. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, dénonce l'impassibilité de la communauté internationale et l'incurie de certaines élites politiques de la RDC face à la spirale de violence dans le pays. Une première partie de son entretien vous sera proposée dans la seconde partie de ce programme que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France-Afrique, Christian Combé.
Comment reconnaître si l'on a pris une bonne décision? Le pape François a apporté des éclaircissements à ce sujet au cours de l'audience générale de mercredi. Il poursuivait son cycle de catéchèse sur le discernement. Plusieurs signes parmi lesquels la paix et la liberté intérieure sont révélateurs d'un bon choix. Adélaïde Patrignani.
Il y a d'abord la paix durable, laissée par le bon esprit après un choix juste. Si le discernement a été bien mené, on y sort meilleur qu'en y entrant, a expliqué François. Un des signes est aussi de savoir si la décision prise répond à l'amour et à la générosité de Dieu envers nous. Notre réponse vient alors de la gratitude pour le bien reçu et pas de la peur ni d'un chantage affectif. La conscience de se sentir à sa place dans la vie est un autre élément important. Tout s'aligne et l'on peut par exemple faire face avec une énergie renouvelée et courage aux difficultés qui surgissent. Une autre marque de confirmation est la liberté par rapport à la décision prise. Libre pour aimer, libre de renoncer aussi.
Solo Dio sa che cosa è veramente buono per noi.
Seul Dieu sait ce qui est vraiment bon pour nous, a expliqué le Saint-Père, insistant sur le fait que la possessivité est ennemie du bien et tue l'affection, comme en témoigne malheureusement la violence domestique. Ce qui importe, c'est que notre confiance soit placée en Dieu, qui nous aime immensément et sait que nous pouvons construire avec lui quelque chose de merveilleux et d'éternel, a conclu le pape. La vie des saints, toujours disposée à aller de l'avant en bénissant le Seigneur, en est le meilleur exemple.
Merci Adélaïde. Le Conseil des cardinaux s'est réuni en session les 5 et 6 décembre à la Maison Sainte-Marthe. Les travaux du Conseil se sont déroulés en présence du pape François avec la participation des cardinaux Pietro Parolin, Giuseppe Bertello, Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracias et Fridolin Ambongo, ainsi que le secrétaire du Conseil, Monseigneur Marco Melino. Un moment de réflexion pour les cardinaux sur la phase continentale du synode en cours. Le compte-rendu de Jacques Ngol.
Les travaux du Conseil des cardinaux ont duré 2 jours. Le 5 décembre, le Conseil a participé à la célébration eucharistique dans la basilique au suffrage du cardinal ghanéen Richard Kouyabaor. Auparavant, avec le pape, les cardinaux se sont attardés sur les travaux de la COP27 en Égypte, introduits par les rapports des cardinaux Parolin et Ambongo. Mardi 6 décembre, avec le pape, les cardinaux ont réfléchi sur la phase continentale de l'actuel synode avec le thème « Pour une église synodale, communion, participation et mission » sur la base d'un rapport du cardinal Mario Grech. À la fin, le cardinal O'Malley a présenté les récents efforts de la Commission pour la protection des mineurs au service des conférences épiscopales et de la curie romaine. Et dans l'après-midi, le cardinal Gracia a rendu compte de la conférence de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie qui s'est tenue à Bangkok en octobre dernier. La prochaine réunion est fixée en avril 2023.
Jacques Ngol. Direction l'Église Famille de Dieu en Afrique. Le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar, CHEAM, en collaboration avec l'initiative de synodalité africaine, a réuni les membres de l'équipe synodale continentale africaine du 6 au 9 décembre à Accra, au Ghana. Cette première réunion doit permettre à l'Église en Afrique de prier, d'écouter et de discerner sur le document pour l'étape continentale publié en octobre dernier par le secrétariat général du Synode sur la synodalité. Nous reviendrons sur les travaux de cette réunion continentale dans nos prochaines éditions. La Conférence des Jésuites d'Afrique de Madagascar, JICAM, a un nouveau président en la personne du père José Minaku Lukoli. L'annonce de la nomination du jésuite congolais par le père général de la Compagnie de Jésus, Arturo Sosa, a été donnée par son prédécesseur à la tête du Forum continental, le père Agbonkiamegué Orobator. Le père José Minaku a notamment servi comme ancien supérieur de la province jésuite d'Afrique centrale, qui regroupe la République démocratique du Congo et l'Angola. Direction le Rwanda, les évêques du pays ont élu le cardinal Antoine Kambanda, président de la conférence épiscopale du Rwanda. C'était au terme de leur assemblée plénière qui s'est tenue à Kigali du 29 novembre au 2 décembre. Le tout premier cardinal du Rwanda succède à Mgr Philippe Rukamba, qui a terminé son mandat de 3 ans. Mgr Vincent Harolimana, évêque de Ruwengeri, assistera le cardinal Kambanda en tant que vice-président, indique le communiqué de l'épiscopat rwandais. Les acteurs du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire ont pris part dans la nuit du vendredi 2 au petit matin du samedi 3 décembre en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro à la première édition de leur pèlerinage national. L'éducation catholique en Côte d'Ivoire au service de l'évangélisation et du développement humain intégral était le thème de cette veillée de prière. Marcel Aristan Blé.
L'objectif de ce ressourcement spirituel était de permettre aux acteurs du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire de vivre pleinement leur foi catholique, redécouvrir les fondements de leur vocation dans cette vaste mission que leur confie l'Église, l'éducation et la formation intégrale des apprenants. Ils étaient près de 10 000 venus de tous les diocèses que compte la Côte d'Ivoire, enseignants, éducateurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques et personnels administratifs accompagnés de leurs aumôniers religieux, religieuses pour confier l'école ivoirienne à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Dans l'homélie qu'il a prononcée lors de cette messe, Mgr Gaspard Bébigné-Ba, évêque de Mans, président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, a exhorté le personnel de l'éducation catholique à l'espérance.
Surmonter ensemble, non pas dans la division, non pas dans l'opposition, affronter et surmonter les difficultés du temps présent, d'abord au sein du système éducatif catholique, au sein de l'Église, mais aussi au sein de la société ivoirienne. Ensuite, un message de foi. Et donc, c'est avec Dieu que nous pouvons réellement réussir, nous-mêmes, à être heureux, mais à bâtir une société intégrale, équilibrée, qui prend en compte à la fois les riches, mais aussi les pauvres. J'ai appelé donc tous les acteurs du système éducatif catholique à redonner à l'école catholique ou à l'éducation catholique sa véritable identité. C'est une école inclusive, ouverte à tous.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Voilà pour les nouvelles de l'Église. Ouvrons à présent notre page sous l'actualité sociopolitique africaine avec l'Afrique du Sud. L'assassin du militant anti-apartheid, Chris Sani, poignardé en prison, a été placé en liberté conditionnelle mercredi 7 décembre. La plus haute cour du pays lui avait accordé fin novembre ce statut après une trentaine d'années derrière les barreaux. Cet immigré polonais lié à l'extrême droite blanche africanaire avait été condamné à mort puis à la prison à vie pour avoir tué par balle Chris Sani en 1993. Direction le Maroc. La demande de remise en liberté de l'opposant et ancien ministre Mohamed Ziane, emprisonné à la suite d'une plainte des autorités, a été rejetée par un tribunal de Rabat, a indiqué mardi son fils, qui est aussi son avocat. Nous continuons à affirmer que la procédure de convocation à comparaître devant le tribunal n'a pas été respectée, ce qui entraîne la nullité de la décision de son incarcération, a estimé Maître Ali Reda Ziane. Ex-bâtonnier de Rabat, Mohamed Ziane avait été arrêté et incarcéré le 21 novembre après avoir été condamné en appel à 3 ans de prison ferme. Terminons cette page d'actualité avec l'Éthiopie. La capitale du Tigré, Mekele, a été reconnectée au réseau électrique national après plus d'un an de coupure en raison de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie, a annoncé mardi soir la Compagnie nationale d'électricité. Cette annonce intervient un peu plus d'un mois après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement fédéral éthiopien et le rebelle tigréen. En 2022, selon l'Union internationale des télécommunications, près de 3/4 des êtres humains dans le monde âgés de plus de 10 ans ont un téléphone portable. Et cet âge tend à diminuer d'année en année, augmentant l'exposition des enfants aux contenus digitaux et tout ce qui est véhiculé sur le net, le meilleur comme le pire. De quels moyens disposons-nous pour éviter les dérives? Nous avons posé la question à Justine Atlan, experte des usages numériques des jeunes et directrice générale de l'association e-Enfance.
Ces objets numériques sont particulièrement attractifs, voire à certains égards addictifs. Donc déjà, il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où on va les mettre dans les mains d'un jeune enfant ou adolescent, ça risque de remplacer d'autres activités en termes d'attrait pour lui. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Et donc il y a une question sur le temps que ça va prendre et la place que ça prend dans la vie. Et puis ensuite, à l'intérieur des outils eux-mêmes, donc ça concerne plutôt les réseaux sociaux et Internet, effectivement, il y a des risques qui peuvent être de nature diverse. Ça peut être l'exposition à des contenus qui sont absolument pas évidemment indiqués pour les jeunes, que ce soit de la violence, que ce soit de la pornographie, du jeu d'argent, des choses comme ça. Il y a la rencontre malheureusement de personnes plus ou moins bien intentionnées à l'écart de mineurs qui peuvent être effectivement des prédateurs sexuels ou des gens qui cherchent en tout cas à manipuler les cerveaux et les jeunes. Et puis il y a tous les risques entre jeunes, je dirais, qui sont des risques de ce qu'on appelle globalement du cyberharcèlement, mais de violence en ligne que les jeunes eux-mêmes peuvent commettre entre eux à base de commentaires, d'images, de photos, de vidéos, de faux comptes, enfin voilà, plein de malheureusement de façons de se nuire entre eux à travers ces outils numériques.
De quels moyens dispose-t-on pour justement prévenir ces risques?
Alors, la meilleure prévention pour ces risques-là, comme pour d'autres, reste l'éducation, l'information et l'éducation. Donc, informer les parents et éduquer les jeunes, justement, à quoi servent ces outils, à quoi ils ne servent pas, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on se met en scène ou en ligne sur ces outils-là, comment on protège sa vie privée, comment on respecte le droit à l'image des autres, la liberté d'expression, un certain nombre de contenus. Tout ça, on se rend compte finalement, ces outils-là nous montrent que c'est des notions qu'on maîtrise assez mal parce qu'elles ne sont pas forcément transmises et qu'aujourd'hui, ces outils numériques nous obligent à les respecter. Donc ça, l'éducation, l'information, ça reste quand même la meilleure façon. Après, dans les outils eux-mêmes, il y a évidemment des systèmes soit de contrôle parental qui peuvent être embarqués sur les téléphones ou les tablettes ou les consoles de jeux vidéo, mais aussi dans les réseaux sociaux eux-mêmes, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont adaptées justement aux jeunes, en tout cas aux moins de 18 ans, et qui peuvent être mis en place pour que justement des jeunes ne soient pas en lien, par exemple, ne puissent pas être contactés par des personnes qu'ils connaissent pas, ne puissent pas subir des commentaires malveillants, etc. Donc il y a aussi un intérêt réel pour les parents de vraiment alerter leurs enfants sur le fait qu'il faut qu'ils donnent leur âge, leur vrai âge, quand ils s'inscrivent sur ces réseaux sociaux, ce qui permet aux réseaux sociaux de leur proposer un certain nombre de protections qui sont adaptées justement aux mineurs sur leur plateforme.
Là où les familles ont éventuellement quelques difficultés à gérer cette question, est-ce qu'on ne peut pas penser à une régulation de la publication des contenus et une régulation interne de la part des réseaux sociaux, voire une législation peut-être?
C'est vrai que ça pose une question plus large, c'est qu'est-ce que sont ces plateformes? Est-ce qu'effectivement, elles doivent continuer à être appréhendées comme des moyens de communication, mais des tuyaux par lesquels passeraient des contenus et auxquels elles n'auraient pas de regard, sur lesquels elles n'auraient pas de regard? Ou est-ce qu'à l'inverse, elles se rapprochent plus d'un média qui, effectivement, édite des contenus qu'ils voient et sur lesquels ils peuvent choisir de laisser passer ou pas un certain nombre de contenus? Donc ça, c'est un débat qui existe depuis longtemps, qui risque effectivement de faire passer les plateformes à plus de responsabilités et de capacités peut-être de supprimer ou de bloquer des contenus avant même qu'ils soient publiés.
Justine Atlan, experte des usages numériques des jeunes et directrice générale de l'association e-Enfance, était interrogée par Jean-Charles Puzzolu. La situation sécuritaire est toujours très fragile dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon Kinshasa, sont accusés d'être derrière la tuerie du 29 novembre à Kishishe. Près de 300 civils auraient été massacrés dans ce village de l'est du pays, dont des enfants. Présent à Rome ces jours-ci, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, est passé dans nos studios. Dans cette première partie de son entretien que nous vous proposons, il dénonce notamment l'impassibilité de la communauté internationale et l'incurie de certaines élites politiques du pays face à cette spirale de violence. On l'écoute.
Nous sommes très attristés par la situation récurrente à l'est du Congo qui dure pratiquement depuis au moins 3 décennies. De groupes armés qu'on n'arrive pas à maîtriser, Il y a des groupes qui sont plus sanguinaires que les autres, comme les ADEF dans les diocèses de Beni-Boutembo. Et actuellement, avec ce qui se passe autour de Goma avec le M23, et malheureusement, d'après les informations de sources sûres que nous recevons, ce mouvement est soutenu par le Rwanda et voire même par l'Ouganda pour semer le mort. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe, parce que si c'est un conflit lié à des questions de nationalité ou de droit d'un peuple, il y a un autre cadre pour aborder ce genre de problèmes. On se retrouve autour d'une table, on discute, on se met d'accord, on trouve une solution. Au lieu de passer des temps à massacrer de paisibles citoyens, ce que nous avons reçu il y a quelques jours, le massacre des Kishishe, et on parlait déjà de 300 morts. Mais c'est inacceptable. Nous nous posons la question, et ce sont les évêques du Congo qui se posent la question, mais jusqu'à quand cette tuerie va continuer?
Que peut faire, que doit faire la communauté internationale pour faire en sorte que cette situation s'apaise?
Mais en tant que pasteur du Congo, vivant aux côtés de notre peuple, nous avons fait le triste constat que la communauté internationale est complice dans ce qui se passe à l'Est. Pour la simple raison que tout le monde sait ce qui se passe, mais on fait semblant de ne pas voir la réalité. Nous avons même l'impression que toute la communauté internationale, représentée par la MONUSCO au Congo, est impuissante devant la force de M23 soutenue par le Rwanda. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable.
La MONUSCO, rappelons-le, qui est la force de l'ONU, représentée par plusieurs pays. Cette force ne sert à rien, nous dites-vous?
Mais c'est l'impression que la MONUSCO donne, non seulement une impression. La MONUSCO a avoué son impuissance devant le M23. Que le M23 possède des armes plus sophistiquées et qu'elle ne peut rien faire contre le M23. Mais allez-y comprendre quelque chose.
Alors, il y a un mois, les évêques du Congo, les évêques de la CENCO se sont réunis pour votre assemblée plénière extraordinaire. À l'issue de cette rencontre, vous avez publié une déclaration très vive. « Notre pays est en danger », écriviez-vous. « Ne laissons pas balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora ». Vous invitiez aussi justement les acteurs politiques, les responsables politiques à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que cela veut dire?
Le risque de balkanisation de notre pays a toujours été un thème pour les évêques du Congo quand ils se réunissaient, parce qu'ils voyaient venir ces risques. Maintenant, avec la recrudescence du conflit à l'Est, surtout avec le M23, nous avons maintenant la nette conviction qu'il y a des forces extérieures qui veulent vraiment morceler notre pays en petits états nains. Voilà pourquoi les évêques, dans leur mission prophétique, ont écrit un message au peuple au titre « Combien évocateur, l'heure est grave ». Et effectivement, l'heure est grave au Congo. C'est pourquoi les évêques, non seulement ont envoyé ce message, mais ils ont aussi invité tout le peuple congolais, en commençant par les fidèles catholiques, de marcher, de se tenir debout pour crier leur rejet total de ces projets de balkanisation de notre pays.
Aujourd'hui, la nation congolaise est en danger, Éminence?
Nous croyons que la nation congolaise est en danger. Et nous avons l'impression que du côté du Congo, on ne prend pas suffisamment la mesure de ces dangers qui pointent à l'horizon. Moi, je suis archevêque de Kinshasa, je vis à Kinshasa, et des fois, je n'ai pas l'impression que les tenants du pouvoir se préoccupe davantage de ce qui se passe à l'Est. On se querelle autour de questions secondaires, autour de partage du pouvoir, partage de profits, alors que le pays brûle à l'Est. Nous espérons qu'à la faveur de cette marche qui vient de se passer, qu'il aura une sorte de front commun pour mieux présenter la cause du Congo et aider le pays à regarder sa réalité en face. Parce que nous le disons toujours, si tout cela nous arrive, mais nous y sommes pour quelque chose, c'est aussi de notre faute. Nous n'avons pas été capables, en tant que pays, en tant que gouvernement, de mieux nous organiser et de mieux défendre la cause de notre peuple.
Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, dans des propos recueillis par Olivier Bonnel.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Kombé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.